futurs époux qui devraient invoquer le Saint-Esprit avant de faire des bêtises. Alors, c'est très concret ce qu'on va faire là. On m'a posé des questions. On m'a demandé comment agir avec des gens qui veulent faire annuler leur mariage. Ou plutôt qui veulent faire reconnaître la nullité de leur mariage, parce que nous n'annulons rien. Nous reconnaissons ce qui est nul. Ça nous arrive tous les jours lorsque nous reconnaissons qu'un mariage purement civil, c'est un mariage religieux est nul. Nous le faisons nous-mêmes parce que c'est très simple. Lorsque les cas sont plus compliqués, il faut une petite enquête. J'ai pensé que d'un point de vue pratique, il valait mieux vous faire un commentaire de la demande de renseignement, de la déposition, de l'enquête. Un commentaire de l'enquête qui nous sert à introduire le cas. Je pense que vu la multiplicité des demandes qui vous sont faites, il faut que je pense à vous envoyer maintenant à tous ce formulaire d'enquête introductive qui concrètement pourrait vous servir comme les autres formulaires. Remarques préliminaires, elles sont très importantes. Le prêtre se souviendra qu'il ne lui suffira pas d'obtenir des réponses, mais qu'il devra prendre tous les moyens pour découvrir la vérité exacte. Nous ne sommes pas des fonctionnaires, nous n'avons pas besoin de papiers en ordre et bien remplis. Nous admettons tout mode de preuve, mais nous refusons de juger lorsqu'il n'y a pas des preuves, des convictions, quelque chose qui nous permette de savoir la vérité. Donc, nous avons besoin d'une part de réponses à des questions, mais surtout, nous avons besoin de découvrir la vérité. Donc, faisons attention à cela. Découvrir la vérité, ça veut dire deux choses. D'une part, obtenir des convictions. D'autre part, obtenir des preuves qui nous permettent de savoir que ces convictions sont fondées sur quelque chose. Pour cela, le prêtre a toute liberté de rajouter des questions à celles qui sont posées, à celles qui sont indiquées ici. Par conséquent, devant le fidèle, il est préférable de se servir de ceci, mais de ne pas répondre sur cette feuille ici. De renoter les questions, d'abord parce qu'il y en a qui sont totalement inutiles, vous poserez la question, et puis il sera inutile de la réponse n'a pas d'intérêt. Pour la peine de noter ni la question ni la réponse, ça n'a pas d'intérêt. En revanche, on va voir qu'on arrive à des questions quelquefois qui sont très, très ambiguës, très subtiles, des réponses très subtiles. Alors il faudra faire repréciser les choses. Et si la réponse a de l'intérêt, vous noterez la question que vous avez posée et vous noterez la réponse. On n'est pas obligé de tout noter. On n'a pas besoin d'un kilo de papier. Mais ce qu'on note doit être l'expression exacte de ce qui a été dit. Le prêtre est bien libre de juger que telle chose n'a pas d'intérêt. Il prend ses risques, évidemment, si elle en avait, la chose est perdue. Enfin, quand même, on voit bien que la chose n'a pas d'intérêt. En revanche, s'il note qu'une chose a de l'intérêt, il doit faire bien attention de noter les réponses de la personne et non pas sa propre interprétation. S'il note sa propre interprétation, il le fait en indiquant « Vu telle circonstance, j'estime que telle chose va être interprétée de telle manière. » Ça a une valeur limitée, mais enfin, s'il estime devoir le dire, il le dit. Donc, notera soigneusement chaque question posée avec leur réponse devant l'intéressé lui-même. Très, très important, hein, devant l'intéressé lui-même. On n'attend pas. Les dépositions ne pourront plus être modifiées une fois que l'intéressé les aura signées, mais il pourra en faire d'autres. On utilise pour la même raison, on n'utilise jamais de blanc, le correcteur blanc, quand on raye. Nous ne sommes pas là pour avoir des documents propres, nous sommes là pour avoir des documents vrais. On s'est trompé, on raye. Parce qu'il faut vous dire une chose, que ces documents doit vous servir à vous pour obtenir une conviction, et avec du blanc ou du correcteur, la conviction demeure la même, doivent servir à nous qui allons juger le cas. Nous vous ferons confiance, nous supposons que vous n'avez pas triché, vous êtes bien d'accord. Mais ça doit servir également dans 50 ans. Quand vous prenez un dossier de jugement tel qu'ils sont publiés par la Rote romaine, par exemple, vous prenez un dossier, à partir du moment où vous faites confiance au juge qu'il a bien relevé la vérité, tout son raisonnement est logique et emporte votre conviction. Nous mourrons, le dossier doit continuer à emporter la conviction de ceux qui le consulteront. Ça, c'est très important. À la fin, le prêtre donnera son avis et les suggestions qui lui paraîtront utiles. C'est très important, évidemment, vous connaissez vos fidèles, vous savez si on peut faire confiance, si on ne peut pas faire confiance, si cette personne vous a déjà menti ou pas, s'il s'agit, vous comprenez, s'il s'agit de la sœur de Monsieur l'abbé Oulamier, on prendra évidemment ses réponses avec plus de d'une autre manière que s'il s'agit de la sœur de l'égoutier du coin. Bon. Alors, vous notez. Je vous dis cela parce que j'ai vu un jugement où le fait de la qualité catholique de la famille a suffi comme preuve de la véracité de ses dires. Il y a un jugement qui est monté jusqu'à la Rote romaine. La fille a dit, comme preuve de ce que j'avance, je n'ai que ma bonne foi. Et la Rote romaine a répondu, dans une telle famille connue pour son catholicisme, avec des preuves de la profondeur de conviction de cette personne, il serait abusif de ne pas croire à sa parole. Et la nullité a été reconnue uniquement sur sa propre déposition. Parce que, encore une fois, nous ne sommes pas des fonctionnaires administratifs. Bon, il est évident que, encore une fois, les boutiers du coin, ils pourront vous dire ce qu'ils veulent, on ira quand même vérifier. Lui, en revanche. Alors, il y a un serment à faire prêter, un serment sérieux. Si l'intéressé refuse de prêter serment, ça peut arriver quand vous avez affaire à des non-catholiques, vous notez, il refuse de prêter serment, vous notez pourquoi. L'identité, c'est pas compliqué, vos parents sont-ils divorcés, oui ou quand? Et c'est très important ça, parce que ça nous permet déjà de voir quelle est leur idée sur le divorce. Quand ils se marièrent, l'un ou l'autre ou les deux étaient-ils déjà divorcés? Même raison. Vous êtes-vous converti? Quelle éducation aviez-vous reçu? Ça vous donne déjà une petite idée. Quel était votre caractère, votre personnalité à l'époque du mariage? Bon. J'ai repris ça dans des questionnaires tout faits. Je les ai modifiés et remodifiés. Il est apparu que de temps en temps, cette question 14 avait un certain intérêt. Elle n'en a évidemment pas toujours. Identité du conjoint. Il reste une question 15 pour l'identité du conjoint. Peut-on se fier à sa parole? C'est important. S'il se chamaille, mais vous avez l'épouse qui dit oui, on peut se fier à la parole de mon ex-conjoint, comme ils disent. Ça donne de la valeur à la déposition de l'autre. Voyez. Mais ça peut au contraire en ôter. Tous les deux sont mis d'accord pour obtenir une nullité. Bon, on interprétera, on verra. Information sur votre mariage. Lieu et date de votre mariage, si vous avez été marié plus d'une fois, que ce soit avant ou après le mariage pour des devoirs annulés, indiquez à la liste avec précision. En France, on arrive difficilement à plus de deux. En Amérique, on arrive difficilement à moins de trois. Ce formulaire a été prévu pas seulement pour la France. C'est pour ça qu'en Amérique, on est très surpris. Argument du mariage, du conjoint. Auriez-vous été parrain marraine de baptême de votre conjoint? Votre conjoint aurait-il été parrain marraine de baptême ou de confirmation? Vous pouvez rédiger confirmation. C'est une erreur que ce soit là. Parrainage de confirmation n'annule pas les mariages. Auriez-vous administré le mariage, le baptême à votre conjoint réciproque? Si au moins, alors la question 7, si au moins vous ou votre conjoint était catholique au moment du mariage et que celui-ci n'a pas eu lieu devant un prêtre catholique, l'Église catholique a-t-elle donné la permission pour ce mariage? Très important, tous les mariages d'un catholique avec un orthodoxe devant le ministre orthodoxe et peut-être bien dans certains cas un protestant devant le ministre protestant, ces mariages-là sont valides. Alors, contrairement à ce que nous croyons, vous avez un bon catholique qui épouse une orthodoxe, ils vont devant le pape, vous restez avec le canon ancien, le droit canon ancien, vous dites, bon, ça va, c'est devant le pape, c'est pas le curé, par conséquent, mariage nul. Eh bien non, depuis Paul VI, mariage d'un catholique devant, avec une orthodoxe devant un ministre orthodoxe, mariage valide. La même chose pour les protestants à qui on peut donner la juridiction. Et l'Église l'a fait très souvent.
Il y a une date exacte là
pour... Oui, alors je ne l'ai pas en mémoire, je suis doctus que cum libro. Et alors on relève précisément dans ces cas-là, on voit qu'il y a un os, si vous voulez. On voit qu'il y a un os, on prend des renseignements, puis parfois il est facile de vérifier très précisément les dates. Parce que les dates sont multiples. Il y a une évolution, ils ont commencé par trouver que l'Église orthodoxe sœur méritait un traitement de faveur, puis après ça ils ont étendu de plus en plus loin.
Le mariage de deux luthériens est considéré comme...
valide. En soi. C'est-à-dire, non, pardon, le mariage de deux luthériens n'est pas soumis à la forme canonique. Donc eux.
Il y a un doute sur la. Est-ce qu'on peut considérer comme un mariage légitime au sens théologique, c'est-à-dire à cause du doute du baptême des luthériens?
Oui, on peut. Alors là, c'est très. Il faut quand même un doute positif et probable. Mais il va falloir examiner de plus près. Non, on peut quelquefois résoudre. Le problème de cette manière-là, à savoir que on va découvrir que le baptême de l'un était valide et puis que le baptême de l'autre n'était pas valide. Ça peut arriver. Alors parce que vous avez deux présomptions qui se combattent. Vous avez la présomption en faveur du mariage. On accorde toute valeur aux rites extérieurs et on ne les met pas en doute sans raison. Mais vous avez également une présomption in favorem fidei, c'est-à-dire qu'on présume vrai la solution la plus favorable à la foi. Alors quelquefois, elles se combattent. Il est quelquefois plus favorable pour la foi que les époux ne soient pas mariés, et dès qu'on a un doute, on va présumer que c'est vrai, alors que s'il s'agissait de bons catholiques, on aurait présumé au contraire que l'apparence de mariage était réelle. Parce que la foi est telle qu'on accorde bien des distances de mariage tout à fait valides, in favorem fidei, mais on a donc une présomption qui recouvre un petit peu cela dans le code de droit canonique. Quand on arrive, vous arrivez à un catholique, une protestante, vous arrivez à un doute sur la valeur du baptême de la protestante, pas de doute sur le baptême catholique, un doute sur le baptême de la protestante. Eh bien, ce doute, on n'arrive pas à le trancher. Il se trouve, ben voilà, on n'arrive pas à savoir si vraiment le baptême est valide ou pas valide. Eh bien, on va le trancher in favorem fidei. C'est-à-dire, s'il est favorable à la foi de dissoudre ce mariage, on va résoudre le doute du baptême en fonction en faveur de la nullité du mariage, ou d'une possibilité de faire rompre le mariage. Alors qu'en revanche, s'il était favorable à la foi de déclarer que le mariage est valide, eh bien, on trancherait le doute dans ce sens. Il y a un certain pouvoir de l'Église sur le mariage non catholique, purement naturel. Il y a un certain pouvoir dont elle use dans ses présomptions, sont à la fois des présomptions et un certain pouvoir utilisé.
Concrètement, à chaque fois qu'il y a un luthérien, vous devez que l'un des deux s'est converti dans un mariage de luthériens, forcément le privilège en faveur de la foi joue si l'un des deux, dans sa conversion, veut se marier avec un catholique ou une catholique. Et donc on trancherait après.
Voilà, en cas de doute.
Pour la nullité du précédent.
En cas de doute, insolublement.
Dans ce cas-là, il n'y a quand même pas de nécessité qu'il y ait une certaine persécution de la partie catholique.
Pas toujours. Vous avez par exemple tous les privilèges pétriniens ne supposent pas de persécution de la partie catholique. Alors cette règle de présomption est plutôt dans la ligne du privilège pétrinien que du privilège polaire. Alors, mais c'est tellement complexe, c'est tellement compliqué que ce qu'on vous demande ici dans une telle enquête, c'est de savoir qu'il peut y avoir un problème et qu'il faut donc prendre, comment dirais-je, connaître les faits. Il ne vous appartient pas là de trancher. Vous ne pouvez pas. Même nous, nous faisons un examen approfondi pour trancher. Donc, on ne vous demande pas de trancher sur la validité ou la non-validité du mariage ou du baptême. Bon, vous relevez le fait, un tel était catholique, une telle était alors protestante anglicane de la High Church, ou bien au contraire, baptiste et mormon du dernier jour. Les baptêmes ont eu lieu de telle et telle manière à telle et telle époque, le mariage a eu lieu de telle et telle manière à telle et telle époque. Bon, alors.
Seulement si c'est vous qui tranchez, comme c'est bien exact, c'est nous qui décidons ou pas, en première instance, de lancer une cause.
Oui, voilà.
Alors, il faudrait peut-être qu'on ait, je ne sais pas si c'est possible, mais il faudrait peut-être qu'on ait une espèce de grille, cause désespérée, non, on ne vous l'envoie pas, parce qu'il y a je ne sais combien de temps par écrit, ou des soucis, des heures passées, parce que c'est rudement long de faire des machins.
Oh là, c'est bien.
Bref, pour qu'on ait, en lançant une cause, déjà un minimum d'espoir qu'elle soit envisageable.
Cette grille-là, voilà.
On est un peu dépourvu, voyageur plus
cette grille-là, voilà. C'est pour ça que je vous l'ai distribuée et que maintenant je vais envoyer ça à tout le monde. Cette grille-là, voilà. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien utiliser ça comme une enquête introductive officielle que avoir ça sous les yeux quand vous passez un coup de fil. Oui, bon, ben madame, très bien, votre mariage très nul, mais alors pourquoi? Parce que. Ah, vous étiez protestante, vous entendez, bougez pas. Hein, et vous êtes mariée.
Ouais.
Ah ben c'est quoi, mais vous, à ce moment-là, vous auriez les choses, vous avez des questions à poser, c'est pas juridique, c'est pas processuel, c'est pas valable dans la procédure, mais malgré tout, c'est pas sans intérêt. Parce qu'à ce moment-là, vous allez raccrocher, et puis vous allez immédiatement noter, bon, madame une telle m'a téléphoné, elle pense que ceci, elle m'a dit que ceci, elle m'a dit que cela. Bon, vous pouvez me téléphoner ou m'écrire, et je vous dirai, ah oui, effectivement, très intéressant, il faut poursuivre. La grille, elle est là-dedans. On ne peut pas vous faire une grille automatique parce qu'on ne peut pas vous mettre ça sur l'ordinateur. Il n'y a pas des cas automatiques. C'est une présomption dans un sens, une présomption dans un autre. Alors vous saurez, par exemple, vous allez faire une protestante ou un protestant, vous saurez qu'il peut y avoir un problème du côté du mariage, il peut y avoir un problème du côté du baptême, il peut y avoir un problème du côté de l'intention avec les protestants. Les grands trucs avec les protestants, c'est qu'ils ne croient pas à l'indissolubilité. Alors, bon, quand moi, un cas comme ça m'arrive, je ne demande pas l'identité du conjoint, âge et nombre d'enfants. Je dis, ah bon, très bien, vous êtes protestant, puis sans dévoiler mes batteries, j'essaie de savoir s'ils sont mariés pour la vie ou pas.
Ce que vous voulez dire, c'est que ces questions-là induisent un certain nombre de réponses qui nous permettent.
Oui, d'accord. Qui vont vous permettre.
Mais si on avait déjà les réponses hypothétiques, vous voyez ce que je veux dire?
Ben
c'est-à-dire que vous avez, en gros, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais vous avez 15 cas, si vous avez tout entre les pattes, ça vaut le coup de mettre en cause une cause.
Là, on ne peut pas vous dire ça.
C'est ça qu'on aurait besoin.
Mais non, mais vous ne pouvez pas, ça ne pourra jamais exister puisque vous jugez un cas concret. Alors ces cas, ils sont dans le manuel, ils sont dans le primaire. Alors vous avez tous les empêchements de mariage, alors dès que vous êtes dans ce cas-là, ben, le mariage est nul. Vous avez le respect de la forme canonique. Alors, si la forme canonique n'a pas été respectée, c'est nul. Vous avez tout ça en primaire. Le problème, c'est qu'il faut appliquer. Est-on ou n'est-on pas dans le cas prévu par primaire? C'est là où on se trouve. Ben, je sais bien que c'est pas. Pardon?
On pourrait peut-être quand même avoir un schéma d'exemple, même s'il ne s'applique pas exactement au cas concret.
Au point de passage, ce qui est très difficile, c'est qu'on reçoit quelqu'un qui vous raconte des histoires invraisemblables. Bon. Et si on commence à l'écouter un peu sérieusement, tout de suite, la personne va croire qu'il y a un espoir vraiment fondé.
Oui.
Alors, il faut juger extrêmement rapidement. Oui. Si on est dans un cas complètement farfelu, d'un type qui en a la suite de sa femme ou de son mari, hein, et qui veut changer comme ça, ou bien vraiment s'il y a un problème, et ça, il faut faire ça assez rapidement. Mais pour nous, ça doit être fait rapidement. Si
ben oui, mais c'est.
Espoir,
mais
on lance des causes. Parce qu'elles sont bancales, s'empêtrer, etc., on les demandera pendant des années de temps. Si on pouvait dire tout, enfin, rapidement, disons,
non, je comprends bien.
Une violence pratique immédiate, écoutez votre truc, c'est
Alors écoutez, moi voilà le conseil que je peux vous donner concrètement. Si vous possédez, mieux on possède sa théologie morale et plus on sera apte à voir le. À voir, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, plus on sera apte à voir, tiens, il y aurait peut-être un problème ici ou un problème là. On ne peut pas faire. J'avais pensé pendant un temps former des laïcs à nous aider dans ce genre d'enquête, parce que encore ça va bien, quand vous êtes à Saint-Nicolas, le gars vient chez vous, vous faites l'enquête. Mais quand on nous présente des cas où il faut aller à Orléans interroger les grands-parents d'une fille qui a foutu le camp, on aimerait bien avoir quelqu'un qui pourrait se déplacer, faire des enquêtes. Bon, j'y ai renoncé à former des gens comme ça, des laïcs par exemple, des juristes à la retraite, des avocats à la retraite, parce qu'ils ne connaissent pas la théologie morale. Ils n'ont pas l'habitus de théologie morale, ils appliquent des règles. Alors, qu'est-ce que vous avez, donc, si vous voulez là, vous avez une grille. Alors, vous avez une grille avec un petit peu d'expérience, vous allez savoir que les cas les plus fréquents, ce sont, je peux vous les donner, les cas les plus fréquents, c'est le refus d'indissolubilité. Le mariage à l'essai, si vous voulez. On s'est marié à l'essai. Bon, on s'est marié pour le temps que ça durerait, pour le temps que ça marcherait. On va voir si ça marche, on va voir si ça tient. On va voir si ça peut. Ça, c'est le cas le plus fréquent. Alors après ça, vous avez un cas théorique fréquent qui est le refus des enfants. Pratiquement, il est malgré tout relativement rare. Parce qu'il faut que ce soit un refus du droit aux enfants et non pas un abus du droit. Alors, difficile à déterminer, d'abord rare, et quand ça existe, en plus difficile à déterminer. Alors après ça, vous avez des cas qui ne sont pas très fréquents, mais qui sont très clairs, c'est tous les trucs mal foutus du côté de la forme canonique. Alors, c'est là-dedans qu'on était. Alors, tiens, il y aurait un problème de forme canonique, j'ai affaire à des catholiques, avec un non-catholique, il y a peut-être une recherche à faire de ce côté-là. Donc, vous posez quelques questions. Voilà, je peux pas vous en dire plus. C'est à durer. Oh, ben, le cas de puissance, oui. Le cas de puissance. Bon, qui sont assez rares, parce que l'impuissance chez un jeune, on a quand même des pour l'instant, je n'ai pas encore eu de cas, et je n'ai pas lu de cas de mariage de vieux déclaré nul pour cause d'impuissance. Quand les vieux se marient, ça tue jusqu'à la mort, à peu près. Tandis que c'est uniquement des questions statistiques, hein, j'ai constaté qu'il n'y en avait pas. Il pourrait y en avoir, mais c'est théorique, c'est pas la peine de se donner du mal, trop de mal là-dessus, parce que c'est théorique. Il y avait une question, mais oui.
Oui, parce que vous parlez pour la question de la disponibilité, vous vous dites, on se pose la question, si ça ne marchait pas, etc., mais c'est pas pour le moment un refus.
On va voir, on va y arriver, hein. On va y arriver. Donc, vous pouvez avoir un problème du côté de la forme canonique. N'en disons pas plus, mais vous pouvez avoir un problème de ce côté-là. Après ça, l'intention. Alors, le premier problème à propos des enfants. Les questions ne sont qu'à moitié satisfaisantes parce qu'on est dans des choses tellement compliquées. Donc, parmi les réponses suivantes, indiquez celle qui exprime le mieux quelle fut votre intention en contractant le mariage. Toujours très important, hein, attention, au moment du mariage ou avant, pas après, ce qui s'est passé après, on n'en a rien à faire. J'ai découvert après qu'il était anormal que le mariage soit pour la vie, très bien, vous avez découvert ça après, et qu'il était normal de divorcer, très bien, vous avez découvert après, ça n'a aucune influence sur votre mariage. Hein. Alors là, la même chose, j'ai découvert qu'il était anormal d'interdire la contraception. Bon, si vous les découvrez après, ça ne nous regarde pas. Je suis prêt à avoir des enfants lorsqu'ils viendront. Alors, la position la plus normale, la plus naturelle et la plus catholique. Je préfère ne pas avoir d'enfants pour l'instant, mais je les accepterai s'ils viennent immédiatement. Bon, alors ça, c'est la position la plus courante. C'est anormal, mais c'est courant. On va prendre des précautions. Hein, dans leur langage, ils appellent ça prendre des précautions. Si vous parlez de pilules, si vous parlez d'avortement stérile et tout ça, vous entrez dans les détails qui vont vous gêner. La première question à poser quand on a parlé de contraception, pour ne pas choquer les gens, c'est dire, monsieur, madame, prenez-vous les précautions pour éviter les enfants? Après ça, les précautions, alors, il répond non ou il répond oui? S'il répond non, vous pouvez faire confiance habituellement. S'il répond oui, quel genre de précautions? Bon, alors ils me diront quelles sont les précautions qu'ils prennent. Si c'est des bons catholiques, c'est tout simplement l'abstinence, la continence. Ça arrive, quelquefois ils vont vous dire quelles précautions ils prennent. Alors, ils vont prendre des précautions. Enfin, si les précautions ne marchent pas, ça ne les empêchera pas de garder l'enfant. Alors, ça ne fait pas des mariages nuls, ça fait des abus du droit, hein, du droit aux actes conjugaux. Alors, c'est à moi de décider si et quand j'aurai des enfants. Alors là, on arrive dans des ambiguïtés très subtiles. C'est à moi de décider, mais alors, à moi de décider avec mon conjoint, je rajouterai une ou deux questions là-dessus pour préciser. Une ou deux réponses plutôt. À moi de décider avec mon conjoint. Si c'est de concert avec le conjoint, il n'y a probablement pas de refus du droit. On se mettra d'accord pour avoir des enfants. Il y aura un abus. On se mettra d'accord pour prendre des précautions. Bon, si ma femme exige un enfant, je lui en donnerai un. Ah là, il n'y a pas d'abus du droit. Ils sont tous les deux d'accord, s'il vous plaît. La continence est rare, mais elle est toujours permise. Et alors c'est à moi de décider tout seul, à moi de décider tout seul. Et j'imposerai ma décision à ma femme ou je ne l'imposerai pas. Si je ne l'imposerai pas, ce n'est pas le droit qui est en cause, ça sera une question de rapport de force. Si j'impose ma décision, je l'imposerai comme quelque chose sur le quoi elle n'a pas le droit de me demander le contraire, ou au contraire comme quelque chose sur lequel elle aura raison, mais tant pis pour elle. Si je lui impose comme quelque chose sur lequel elle n'a pas le droit, mais c'est une question de droit de faire des remontrances, mariage nul. Si je lui impose comme quelque chose où elle a effectivement le droit de faire des remontrances, mais tant pis pour elle, je serai le plus fort, un mariage valide. Alors, vous comprenez que si vous posez les questions de cette manière-là aux gens, vous n'obtiendrez jamais la réponse, ou bien alors ils comprendront quelle réponse il faut donner. Alors là, ils vous la donneront bien claire et bien précise. Alors, flairer. Bon, vous ne vouliez pas d'enfant, comment, de quelle manière, vous aviez défini un nombre précis, qui était absolument net et, comment dirais-je, qui faisait partie du contrat, je pense, vous là. Bon, en France, j'ai encore jamais vu. Hein. Ça fait 7 ans que j'aimerais bien reconnaître nul ou moins un mariage en France. Ça serait très intéressant, ça créerait une jurisprudence. J'ai la meilleure volonté du monde dans le domaine, j'y suis toujours pas arrivé. J'y suis pas arrivé, excusez. Lesquels qui pourraient éventuellement être annulés, les témoins déposent pas, déposent comme ci, comme ça, répondent pas, les affaires suivent pas, il y en a deux qui sont en cours, deux, trois. En revanche, aux États-Unis, on a eu un cas très clair, mais très très clair. Le gars a une maîtresse. Et puis il dit à la maîtresse, dis donc, avec ma femme, on aimerait bien ne plus avoir d'enfants. Elle me demande, j'aimerais bien faire une vasectomie, dit-il à la maîtresse. Qu'est-ce que t'en penses? Alors la maîtresse qui dit, tu sais, moi les enfants, j'ai rien à foutre. Alors fais-toi faire une vasectomie, comme ça on aura la paix. Après ça, il lâche la femme et il se marie avec la maîtresse. La réponse de la maîtresse pouvait... Évidemment qu'elle n'avait pas l'intention de concéder un droit aux actes conjugaux apte de soi à la génération des enfants. Ce n'est pas une question de savoir si, avec la vasectomie, il s'agit de stérilité ou d'impuissance, ce qu'elle n'a certainement pas concédé un droit pour la fondation d'une famille. Et c'était complété par une déposition du gars qui montrait bien dans quel état d'esprit il avait fait ça. Il a fallu lui annuler 2 mariages, lui, à celui-là, parce qu'il en était au 3e, déjà. Alors, le premier était nul, parce qu'il s'était marié pour un temps. Le 2e, ça aurait pu durer, mais ils n'avaient jamais pensé, ils avaient écarté la possibilité des enfants. Sa déposition au gars, c'était que je me suis marié pour une partie de plaisir. Bon, alors ça c'était nul. Puis le 3e était chez les tradis, enfin allait être chez les tradis, si les 2 premiers étaient reconnus nuls. Alors, donc de façon précise, je ne veux pas d'enfant pour l'instant, je ne transigerai pas sur ce point. Ce qu'il faut remarquer, ce qu'il faut retenir, c'est que La négation du droit n'a pas besoin d'être définitive, ce peut être une suspension. Il faut qu'il s'agisse du droit, mais une simple suspension du droit fait que le mariage est nul. C'est-à-dire, nous aurons des enfants, mais ma femme n'aura pas le droit d'en demander pendant les deux premières années du mariage. Et là-dessus, je ne transigerai pas. Alors, c'est plus une question d'abus, là, vous voyez. C'est-à-dire que le mariage commencera dans 2 ans. Là-dessus, je ne transigerai pas. Alors, c'est plus une question d'abus, là, vous voyez. C'est-à-dire que le mariage commencera dans 2 ans. Donc, ce n'est pas un mariage. De façon précise et définitive, je ne veux pas d'enfant ou je ne veux pas plus de tant d'enfants. Et je ne transigerai pas. Alors, si ils ont répondu par une question peu claire, ils doivent expliquer, c'est dans l'explication que tout va se révéler. Parmi les deux réponses suivantes, indiquez laquelle indique le mieux votre intention au moment du mariage. C'est là qu'il faut aller la plupart du temps, c'est là qu'il y a le plus de problèmes. Donc, j'ai l'intention d'entrer dans une union permanente et pour la vie, j'ai l'intention de me marier, mais si le mariage est malheureux ou si je ne trouve pas ce que je cherche, je me réserve le droit de divorcer avec la possibilité d'épouser quelqu'un d'autre. Là, il ne s'agit pas d'une question de droit parce qu'on ne peut pas distinguer le droit et l'usage. Quiconque prend une autre femme a nié à la première le droit d'être sa femme. Il ne s'agit pas de question de fidélité, c'est une question de divorce et de remariage. Alors, dès qu'il y a une volonté de pouvoir partir si ça ne marche pas, quelle que soit la cause, alors le mariage est nul. En revanche, il arrive très souvent, très très souvent, que l'épouse, par exemple, vous répond « Ah ben le divorce, ben c'est évident, le divorce c'est un droit !» Très bien. Et pour vous, monsieur, vous pensiez que votre mariage alors se terminerait par un divorce ? « Oh moi jamais de la vie !» Moi j'en ai un qui m'a répondu. On a vécu en concubinage pendant 6 ans pour voir si ça tiendrait. Au bout de 6 ans, on a vu que ça tiendrait. Alors, on s'est marié pour la vie. Mariage valide. Alors qu'il est persuadé qu'on peut divorcer. Mais pour lui, ça ne s'appliquait pas à son cas. C'était bon pour les autres. Il a concédé, exceptionnellement, il a cru que lui serait assez fort pour concéder à sa femme un droit perpétuel. Et il sait bien que ses copains n'y arrivent pas. Mais lui, il était assez fort parce que pendant 6 ans, il avait fait l'expérience. Et que ça marchait. Au moment du mariage, pensiez-vous être tenu par une obligation de fidélité envers votre conjoint ? C'est très rare que le mariage soit nul sur ce point. Parce qu'il faut une obligation de fidélité. Alors, ils sont tous tenus par une obligation de fidélité. Dans la pratique. Ils en font ce qu'ils voudront de cette obligation. Mais la preuve qu'ils sont tous tenus par une obligation, c'est que quand ils commencent à être fidèles, ils se cachent. Rares sont les époux qui disent « Bon, ben, écoute, c'est mon jour de liberté. » Rare. Dire « C'est mon jour de liberté, puis tu n'as rien à dire, tu as 4 jours dans la semaine, puis tu en as 3 pour l'autre. » Ça, évidemment, ce n'est pas une obligation de fidélité. La plupart du temps, ce qu'ils font, ils se cachent, ils connaissent l'obligation, et ils y manquent à leur obligation. Ça ne fait pas un mariage nul.
Et s'ils le font dans l'intention, je me réserve ce droit de connaître d'autres.
Oui, il se réserve rarement le droit.
Moi, je me marie avec celle-ci, mais j'ai tout le droit d'aller voir.
Oui, mais quand ils disent le droit, c'est la possibilité, souvent c'est la possibilité. Est-ce que si c'était une question de droit, ils n'admettraient pas que la femme leur fasse des remarques et ils ne se cacheraient pas?
Mais il y a des fois, ils ne se cachent pas. C'est d'un commun accord.
Oui, on appelle ça les échangistes.
On rencontre ça aussi.
Oui.
Les échangistes.
Les échangistes. C'est vrai. Il faut que ce soit au moment du mariage, il ne faut pas que ce soit après.
En général, ça vient.
Rares sont ceux qui se marient à 4 ou à 3. C'est plutôt quand ils sont lassés du mariage, parce que pour eux le mariage c'est quelque chose de très physique. Quand ils en sont lassés, alors du coup ils font un partenariat à 3 ou 4. Ça vient après. Vous et votre conjoint étiez-vous parents ou alliés? Bon, ça n'arrive pas très souvent, mais ça peut arriver. C'est surtout valable dans des... C'était surtout valable, par exemple, en Afrique, le mariage à l'intérieur d'un village. Chez nous, en France, c'est quand même plus rare. Quelles ont été les étapes de l'échec de votre mariage? En principe, ça ne vous intéresse pas, puisque ça se passe après. Ça peut être révélateur de l'état d'esprit dans lequel ils sont mariés. Ils vont vous dire, c'est tout allait bien, et puis ça a mal marché. Ça paraît difficile qu'il y ait eu une mauvaise intention au moment du mariage. Mais comme c'était prévu, 8 jours après le mariage, ça commençait déjà à ne plus aller. 8 jours après le mariage, j'ai découvert que mon mari avait une maîtresse. Ça peut laisser présumer que le mari ne s'est pas vraiment engagé. Votre vie sexuelle a-t-elle été normale? Sinon, indiquez quels furent les problèmes. C'est par là qu'on va découvrir éventuellement l'impuissance ou la non-consommation. Non-consommation qui ne fait pas un mariage nul, mais qui permet de transmettre un dossier à Rome pour obtenir une dispense. Ça peut arriver quand il y a des mariages valides avec problème dès le début. 8 jours après le mariage, je découvre que mon mari a une maîtresse. Mais comment avez-vous découvert ça? Eh bien, il n'y a jamais eu une nuit de noces. Il n'y a jamais une nuit de noces. Et bien, au bout de 8 jours, je découvre pourquoi il n'y a pas de nuit de noces. On a eu un cas au Mexique. Il n'y a jamais eu une nuit de noces. Pourquoi? J'ai découvert que mon mari était homosexuel. Alors, il n'a jamais voulu consommer le mariage. Alors, le mari, il s'est dit, je me marie, enfin, je vais y arriver. Mariage valide. Il n'a pas eu l'intention de se réserver à un copain à côté de sa femme. Il était persuadé qu'avec cette femme-là, enfin, il allait redevenir normal. Et puis, il ne pouvait pas, il n'a pas voulu, il n'a pas su, je ne sais pas. Il n'a jamais consommé le mariage. Mariage valide, mais dont on peut obtenir dispense.
Il n'y a pas l'impuissance, là, quand même.
Ça peut. Mais Rome réglait rarement les cas d'impuissance par l'impuissance. Parce que l'impuissance est quand même très difficile à prouver. Ce qu'il faut, qu'il n'y ait pas la possibilité d'accomplir l'acte maintenant et dans l'avenir. Alors, qui vous dit qu'un homosexuel est impuissant? Il a été impuissant, mais est-ce que cette impuissance est perpétuelle et définitive? Ça peut se régler, il peut y avoir une impuissance relative. Un homosexuel peut être, excusez-moi, puissant avec les hommes et impuissant avec les femmes. Mais il faut le prouver. Alors on préfère beaucoup plus constater la non-consommation et obtenir une dispense de Rome. Ah bon, pendant les fiançailles, avez-vous fréquenté une ou d'autres personnes en vue du mariage, une relation sexuelle avec cette ou ces personnes, vie commune, si oui, combien de temps? Ça va permettre de savoir quelle estime ils ont du mariage. Par exemple, on va vous répondre, oui, j'ai vécu avec une autre personne, mais ça, c'était autre chose, c'était pas un mariage, ça n'avait rien à voir. Donc, il y a une notion du mariage qui est précise. Ou bien, oui, j'en ai eu d'autres. Bon, puis je trouve que celle-là, ça durait plus longtemps, et du coup, on s'est épousé. Une notion du mariage assez vague. Combien de temps avez-vous été fiancé? Y a-t-il le bon, c'est pareil. Une grossesse a-t-elle influencé votre décision de vous marier? Ça fait évidemment pas des mariages nuls. Enfin, ça peut permettre de voir ce qui s'est passé. On a eu un cas aux États-Unis. Il n'y a pas eu de crainte. Il n'y a pas eu de mariage nul par crainte. Parce que la mère a dit, tu avortes ou tu épouses le gars. Et la fille a dit, moi je ne veux pas avorter. Et je ne veux pas épouser le gars. La mère était un tel tyran que la fille qui avait 15 ans a dit, c'est très simple, elle avait 16 ans, j'épouse le gars, à la majorité, divorce. Alors, la grossesse avant le mariage permettait de comprendre pourquoi la fille avait pris une telle décision de se marier pour divorcer ensuite. Alors que nous ne l'aurions pas cru s'il n'y avait pas eu d'enfant en jeu. Quelqu'un s'est-il opposé à votre mariage ou a-t-il eu des doutes à son sujet? Bon, ça permet éventuellement de savoir si ce qui s'est passé, d'obtenir des témoins. Ça permet de connaître des témoins sans leur dire « avez-vous des témoins ?» Parce que si on leur dit « avez-vous des témoins ?», ils vont dire « tiens, c'est vrai qu'on en cherche. » Alors qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils disent, les témoins? On dit que là, non, on a des doutes sur le mariage, il y a des difficultés, il y a des bons, et on va faire parler la personne sur les difficultés. Résumer brièvement les problèmes, je crois que cette question je la supprimer parce que F fait double emploi avec l'étape, les étapes le 8e. Non. On est en page 3, on arrive en page 4. Avez-vous le projet de vous remarier? Êtes-vous déjà remarié? Si oui, avec qui? Cette personne est-elle baptisée? Cette personne est-elle déjà mariée, religieusement ou civilement? Avez-vous déjà introduit une action de nullité de mariage devant les tribunaux ecclésiastiques? Alors, très important ça, hein, le 5e. Parce que les tribunaux ecclésiastiques vont avoir un double effet. Ils vont d'abord vous juger les choses probablement à l'envers. Il vous manque la page 5.
Oui,
alors vous la donnez. Et la page 4 plutôt. Ah bon. C'est ça les interros. Attendez, je vous donne la page. Il vous manque 3 à 6. Les tribunaux officiels vont vous juger les choses à l'envers. Alors vous serez dans de beaux draps parce que. On va vous juger ça pour des motifs psychologiques. Enfin, ça, vous serez obligé d'expliquer à la personne que maintenant, le jugement en question ne tient pas. Et puis, alors, les tribunaux officiels vont vous bloquer les preuves. Vous bloquez les preuves parce que la plupart du temps, lorsqu'ils demandent la déposition d'un témoin, ils demandent également le secret. Alors, voyez, c'est grave cette affaire-là, vous allez tout nous dire, et après ça, vous ne direz plus rien. Alors, quand nous, on arrive par derrière en disant, bah, écoutez, nous, on a besoin de savoir ce qui a passé, ah, non, j'ai juré le secret. Malin. Si les gens veulent s'adresser au tribunal officiel, bien qu'ils demandent leur mariage au tribunal officiel, qu'ils demandent la communion au tribunal officiel, à l'église officielle, qu'ils demandent la communion, l'absolution et les derniers sacrements à l'église officielle, s'ils estiment que c'est nous qui sommes les gardiens de la morale, et notamment de la morale conjugale, à ce moment-là, qu'ils nous demandent à nous d'examiner leur cas. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Le problème, c'est que souvent, ils arrivent chez nous quand le jugement a déjà été porté par l'église officielle. Alors là, on va quelquefois laisser dans l'erreur de bonne foi, quelquefois. D'un autre côté, il ne faut pas qu'il y ait scandale, pour que les gens disent « Oh, ben, c'est trop facile, on fait annuler l'église officielle, et puis après ça, on va chez les tradis. » Bon, ce n'est pas clair, hein.
Est-ce qu'il continue à annuler nos mariages?
Pas depuis 88, puisque nous sommes schismatiques, nous ne sommes plus tenus à la forme canonique. Mais sinon, il continue, oui. Et puis alors, de mauvaise foi, on sent que nous avons de bons arguments, parce qu'ils en ont peur, ils refusent de les examiner. Je suis intervenu plusieurs fois. Pour éviter la procédure expéditive, elle est devenue expéditissimi, je ne sais pas quoi, dès que j'étais intervenu. Alors, j'ai vu un cas où on a profité des grèves de la poste pour m'empêcher d'intervenir. Et s'ils étaient sûrs de leur bon droit, ils n'auraient pas peur que nous écrivions et que nous exposions notre point de vue. Et notre bon droit, techniquement, notre droit est le plus fort avec l'erreur commune, canon 209. L'erreur commune, écoutez, nous mentons à nos fidèles peut-être, nous les trompons peut-être, mais plus vous prouvez que nous les trompons, plus vous prouvez qu'ils sont dans l'erreur, et plus vous prouvez que cette erreur est commune. Alors plus nous sommes des sales types, et plus nos mariages sont valides. Plus que rien. Et ça, c'est imbattable, et ils le savent très bien, et ils refusent que nous entrions là-dessus. Car en 1098, on va dire, il y a une crise, et à cause de la crise, on marie. Et ils répondent, il n'y a pas de crise, donc vous ne pouvez pas profiter du canon 1098. Canon 209, on va dire, mais c'est tout simple, hein. Erreur commune. Alors, vous faites une enquête à Saint-Nicolas du Chardonnay, vous avez la majorité des gens qui vont vous répondre, on ne sait pas très bien pourquoi, mais les curés marient ici régulièrement, et oui, il n'y a pas de problème. Ou s'il y a un problème, On ne sait pas comment ils le résolvent, mais ils l'ont résolu.
C'est pourquoi le formulaire que vous avez joint au procès de...
Oh, je ne dis pas que je veux l'éliminer, je n'y ai jamais accordé aucune valeur, mais il y a des confrères qui veulent le remplir, qui le remplissent. Comment dirais-je, on utilise le canon 1098 en fonction d'une situation de fait, et non pas en fonction de l'intention des époux qui ont signé ou qui n'ont pas signé. Bon, ils disent, on a cherché, on n'a pas trouvé, c'est pour ça que... On le sait bien qu'ils ont cherché et pas trouvé. Ça a été demandé par un de nos confrères favorable à notre cause, mais de l'Église officielle, qui disait, oh, ça servira de preuve. Bon, la preuve, maintenant, elle est établie. Ça allait bien dans les premiers temps. On cherchait un curé, on ne le trouvait pas, et du coup, on allait voir un prêtre traditionnaliste. Bon, maintenant, est-ce que vous voulez, quoi? À Saint-Nicolas, je faisais la messinier, ça donnait des doutes aux personnes. Ah bon, il y a un problème? Ah bon, on ne savait pas. Vous l'avez jamais fait signer? On ne peut pas. Ah non!
Les gens sont tranquilles, vous leur mettez ce papier et ils commencent à trembler.
Mais moi, j'ai mis que ce n'était pas obligatoire, mais...
Nous, on avait cru au début.
Vous crûtes effectivement, mais j'ai porté un texte, ça ne l'était pas, mais c'est pas grave.
Mais il faudrait le préciser peut-être dans le
mémoire. On va le préciser, mais je ne veux pas non plus choquer les confrères et qui croient que les mariages et que c'est absolument indispensable pour la validité des mariages. Je ne veux pas faire de vagues. Hein.
On pourrait marier des gens qui viennent vous demander un mariage sans qu'ils soient traditionnalistes.
Oui, moi je pense, enfin à Saint-Nicolas, il nous est arrivé plusieurs fois de le faire. Hein. Alors après ça, il y a une question de prudence. Mais sur la légitimité, oui. Nous allons au moins offrir à ces gens-là quelque chose de sérieux, une fois dans leur vie.
Ah, c'est ça.
Non, mais c'est exactement ça.
Et puis alors, s'il commence à justifier en disant non, ça fait rien.
Non, mais je suis bien sûr d'avis.
On a peut-être pu faire attention que certains esprits un peu auteurs, n'est-ce pas, disent bon, on va se marier là, chez les tradis, parce que de toute façon, si ça va pas, on pourra faire annuler.
Oui, alors il y a quelques esprits auteurs, ils sont comme ça, ils ne sont quand même pas si fréquents. Les précautions que nous prenons ont pour but justement d'éviter ça. Mais hélas, ces esprits retors seraient plutôt chez ceux qui connaissent la difficulté, donc chez des gens déjà formés. Alors comment voulez-vous l'éviter? Ce sont ceux qui justement sont nos fidèles et à qui on ne peut pas refuser le mariage. Et ceux qui ne sont pas nos fidèles et qui viennent nous voir n'ont pas l'esprit retors.
Ils connaissent pas les subtilités.
Parce qu'ils ne connaissent pas les subtilités. On termine avec l'exclusio promis. J'ai fait un petit questionnaire supplémentaire à propos de l'exclusio prolis, parce que justement, c'est pas clair. On peut céder des questions suivantes. Votre conjoint vous a-t-il précisément dit qu'il refusait d'avoir des enfants? Vous l'a-t-il dit avant le mariage? Si oui, combien de fois? En quels termes? Les termes sont très importants, puisque le conjoint dépose sur son conjoint. Vous l'a-t-il répété après le mariage? S'il l'a répété, c'est que c'était, vous voyez, une intention vraiment ferme. Si oui, combien de fois? En quels termes? Si à chaque fois qu'ils ont parlé de l'acte conjugal, le conjoint est revenu sur cette question, attention, hein, t'as bien pris les précautions. Ça met des doutes. Si au contraire, il l'a dit avant le mariage, puis qu'après ça, emporté par l'amour, alors on peut penser quand même qu'il s'est marié comme tout le monde se marie. À votre avis, pour quelle raison votre conjoint ne voulait-il pas d'enfant? Ça va vous permettre de savoir si c'était un refus du droit ou une volonté d'abuser du droit. Qu'aurait-il fait si, malgré ses précautions, un enfant avait été conçu? Voulait-il une vasectomie, une ligature des trompes? De fait, y a-t-il eu vasectomie ou ligature des trompes? Pose les deux questions, d'ailleurs, parce qu'il peut l'avoir voulu pour lui ou pour son conjoint. Et puis les autres questions sont les mêmes, posées à l'intéressé lui-même. Voilà.
Pour des mariages de personnes déjà d'un certain âge, sans que cette question des enfants ici soit difficile, non?
Ah ben évidemment, si vous mariez une femme, enfin si elle s'est mariée après la ménopause, c'est inutile de lui poser la question.
Alors, bien sûr, mais la question du aux alentours de la ménopause, quand on peut avoir des enfants,
oui.
Mais un peu anormaux.
Oui, là il y a un sérieux problème, y compris pour les mariages. Là, il faut être prudent. Alors, non pas quand le cas de demande de nullité nous arrive, mais pour éviter qu'il nous arrive. C'est-à-dire, il faut. Souvent, quand ils se marient il y a quelques années avant la ménopause de la femme, ils sont bien décidés à ne pas avoir d'enfant. Parce qu'ils croient qu'il y a des risques d'hommes, ce qui n'est d'ailleurs pas aussi vrai qu'on le dit. Enfin, bon. Alors, est-ce qu'ils vont donc nier le droit aux actes conjugaux? Ou est-ce qu'ils vont décider de ne pas lui faire porter de fruits? Il convient d'être précis quand on fait l'enquête avant le mariage dans ces cas-là.
Dans ce cas-là, on peut marier?
Ah ben s'ils veulent abuser du droit, on peut marier. Parce que le sacrement de mariage est le seul qu'on peut donner à des personnes non disposées, à cause de son impact social.
Oui, mais si le prêtre le sait délibérément.
Qu'ils vont abuser du mariage, on peut marier quand même. Ah ben il vaut mieux des gens mal mariés. Eh ben, il vaut mieux des gens mal mariés que des concubinaires. Alors c'est très délicat, parce qu'il ne s'agit pas de conseiller d'abuser du mariage, mais il faut, en revanche, on n'a pas le droit de marier si le mariage doit être nul.
Vous pourriez bien repréciser pour la question des enfants, là c'est le droit
aux actes conjugaux, apte de soi à la génération des enfants.
Donc dans l'esprit du qui se marie, qu'est-ce que c'est?
Qui trouve normal que sa femme lui demande de faire ce qu'il faut pour avoir des enfants.
Il trouve anormal.
Qu'il trouve normal, le droit aux actes conjugaux, aptes de soi, c'est trouver normal dans l'intention donc, que la femme lui, ou le mari, demande les actes conjugaux qui permettent d'avoir des enfants. Alors, vu la malice des temps, ils vont souvent en abuser. Vont-ils en abuser par faiblesse? Ou bien vont-ils en abuser par principe, c'est-à-dire nier ce droit. C'est-à-dire, on aura trois enfants, au bout de trois enfants, tu pourras me demander ce que tu voudras, ça sera fini. Après trois enfants, tu n'auras des actes conjugaux qu'avec la pilule ou d'autres moyens. Sinon, ça ne sera pas la peine. Là, il y a une négation du droit.
Négation du droit, même si elle n'est pas efficace, en fait.
Oh ben même si le préservatif n'est pas efficace, ou n'importe quoi. Voilà, c'est autre chose. Souvent, d'ailleurs, ils disent deux pour prévoir le troisième qu'est l'accident. C'est là où c'est très délicat. Il y a probablement des mariages nuls là, mais alors allez y trouver.
Est-ce qu'on pourrait un peu préciser ce que j'ai discuté avec des confrères, on s'en rend pas tous sur ce qu'on appelle la pratique. Les régulations de naissance, etc., les méthodes naturelles, etc. On invoque des raisons, les raisons médicales, les raisons géniques, etc. Mais bon, certains disent qu'il ne faut pas trop rentrer dans l'intimité conjugale.
Ça, c'est vrai.
Mais est-ce que vous pourriez préciser c'est l'article qui a paru dans Sissinodo il y a quelques années qui ne fait pas l'unanimité.
Ah, pourtant, il est parfaitement juste.
Il
est parfaitement juste. C'est du volontaire indirect.
C'est pas l'unanimité.
C'est du volontaire indirect. Vous avez omission d'un devoir grave, il faut une raison proportionnée à la gravité de cette omission. Plus l'omission est longue, plus il faut une raison grave, plus l'omission est courte, et plus il faut une raison, moins il faut une raison grave. Alors, quelles sont les raisons graves? Ce sont des raisons à apprécier in concreto, c'est-à-dire qu'un cinquième enfant peut être une lourde charge pour une mère un petit peu fragile psychiquement qui a déjà quatre garçons qui sont des gaillards qui lui fichent la maison en l'air, alors qu'on connaît des femmes qui au dixième sont encore aussi fraîches qu'au premier. Alors c'est pas un nombre, c'est pas à partir de tant d'enfants ou à partir de tel âge ou à partir de telle situation ou donc est-ce que vous voulez tomber au chômage, pas avoir d'argent, ça permet quand même de prendre des moyens au moins le temps de se retourner. En revanche, si la situation dure, il faudra bien s'adapter à la nouvelle situation. Alors, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle.
Ce n'est pas au prêtre de s'immiscer dans le choix des conjoints. Ce n'est pas au prêtre de décider la chose. C'est au prêtre de rappeler les principes et les conditions nécessaires, mais ce n'est pas au prêtre de juger de la situation concrète. Hein.
Mais il peut donner un avis, surtout quand on le lui demande.
Oui.
Pensez-vous qu'il soit raisonnable de...
Mais c'est pas en fait d'imposer
quelque chose. Ah non, ni dans un sens, ni dans l'autre. Sauf quand c'est évident.
Parce qu'autrement, vous foutez la merde.
Sauf quand c'est évident. Quand vous avez au confessionnal quelqu'un qui vous apporte pas de raison pour la pratique de la régulation naturelle des naissances, ben, il est normal que vous jugiez. Mais il faut juger, c'est différent quand on a à juger en vue d'une absolution à donner, ou lorsqu'on a à juger ce point précis et rien d'autre. On n'a pas la même autorité. Quand il s'agit de l'absolution à donner, nous avons une autorité réelle et complète en vue de donner l'absolution ou de la refuser. En dehors de ça, nous avons une autorité de conseil, d'interpréter les choses, mais enfin, on ne peut pas commander.
Quand il refuse l'absolution sous prétexte que ça fait tant d'années, qu'il y a eu du temps d'enfant, c'est quand même un peu exagéré.
Ah, vous ne pouvez pas condamner en année, compter en année, ni compter en enfant. C'est un indice.
Ils sont en péché mortel, ceux qui même pourraient avoir des enfants, mais n'en ont pas à cause de cette pratique.
Ah si, ils sont en état de péché mortel. Bah écoutez, c'est comme un déserteur au combat. C'est la même chose, c'est le bien commun. C'est un devoir en raison du bien commun. Alors quelqu'un qui déserte au combat, oui, quelqu'un qui déserte au combat, qu'est-ce que vous voulez, il mérite 12 balles dans la peau. Et des gens qui profitent de la société et qui ne lui donnent pas d'enfants, bah, dégagez, messieurs dames. On a besoin d'enfants, on a besoin de petits français, de petits catholiques, on a besoin de tout ça. Alors, vous profitez des grâces, du sacrement, tout ça, vous venez communier, et puis faire votre devoir, Bernique. Ça ne marche pas. Alors, outre qu'en plus, c'est hyper dangereux pour les ménages. La pratique déjà légitime de la régulation naturelle des naissances est dangereuse pour les ménages. Alors, comment en plus elle est illégitime?
Je dis ça en pensant à ce qui se dit dans les retraites, de Saint-Ignace. Je connais quelques cas où la force du prêtre a été telle que le ménage a été troublé, gravement troublé. Alors il faut être très précis. Alors, on ne peut pas être très précis quand c'est trop public, mais il faut faire attention de ne pas perturber un ménage. Il faut faire attention.
Si vous permettez, pour aller dans votre sens, monsieur l'abbé, il y a quelque chose que je voulais dire hier que j'ai oublié. Vous ne pourrez pas ne pas vous tromper. Ce n'est pas possible, que ce soit en confession ou dans d'autres choses. Alors, prenez le risque de vous tromper dans le sens de l'indulgence, dans le sens de ce qui se fait déjà. Il y a beaucoup de motifs pour faire ça. Si les époux sont en faute, eh bien, ils ne méritent pas qu'on leur donne... c'est de leur faute, quoi, de subir les conséquences. Tandis que s'ils sont innocents et vous venez les troubler, alors vous êtes gravement injuste. Comprenez, c'est à eux de supporter leur faute, mais justement, de ne pas supporter la faute des autres, sous prétexte qu'il y en a qui abusent, on a troublé ceux qui n'abusent pas. Alors, au confessionnal, quand vous hésitez à absoudre ou pas absoudre, absolvez. Vous êtes trompé, tant pis. Vous hésitez à être sévère ou à être doux, soyez doux. Il reste ce coup-là, il aurait fallu être sévère, tant pis. Moi, j'ai vu des drames. Alors, évidemment, le confrère était de bonne foi, ils ont fait ce qu'ils estimaient être leur devoir. Mais saint Thomas, je voulais vous lire ça, mais on n'a plus le temps, je voulais vous lire ça. Saint Thomas le dit clairement, j'avais un texte de lui. Le prêtre ne peut pas ne pas se tromper, s'il se trompe, que ce soit dans le sens de l'indulgence, car c'est une faute qui est remise dans l'au-delà. Ça ne veut pas dire que les autres ne le soient pas, mais c'est une faute de faiblesse, vous voyez, ce sont ces fautes qui ne procèdent pas d'un mauvais état d'esprit. C'est-à-dire que la sévérité procède d'un mauvais état d'esprit. Et la faute de sévérité mérite de ne pas avoir d'indulgence. Bienheureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Si on pêche par miséricorde, on obtiendra miséricorde. Si on pêche par sévérité, on n'obtiendra que de la sévérité. Alors ça veut pas dire qu'il ne faille pas faire d'efforts pour arriver à acquérir de l'expérience, à consulter des confrères, à devenir de plus en plus droit, de plus en plus juste, à bien confesser de mieux en mieux, à sortir les gens du péché, parce que le péché même purement matériel est un drame. Le péché même matériel, même non formel, c'est quelque chose de dangereux et qui a des lourdes conséquences. Il faut essayer d'en sortir les gens. Mais il faut être... Je pense qu'il vaut mieux être indulgent, surtout quand on est jeune, surtout quand il s'agit de femmes, surtout quand on hésite, surtout quand on le sent quand on n'est pas à l'aise. On se dit, non, je ne suis pas sûr de mon coup.